Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon-Émile.
Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Merci d'avoir choisi le 93.1 Aligre FM pour passer votre soirée. Je suis ravi de vous retrouver pour parler du tout dernier roman de Daniel Maximin qui paraît chez Caraïbes Éditions. Salve de blues, lundi 9 mars 1942 au Mont Valérien. Ce roman raconte la journée de 5 personnages qui vont tout faire pour obtenir la grâce ou le sursis pour donc 27 jeunes résistants condamnés à mort sous l'occupation. Salve de blues, c'est l'histoire d'une résistance face à l'occupant nazi. Salve de blues, c'est aussi l'histoire d'un genre musical qui répond, qui tient tête à d'autres salves, celle des pelotons d'exécution. Bonsoir Daniel Maximin.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Daniel Maximin. Vous êtes donc poète, romancier et essayiste. Vous avez déjà publié plus d'une quinzaine d'ouvrages, parmi lesquels Tu, c'est l'enfance, ainsi que L'invention des désirades. Vous aviez été très proche d'Aimé Césaire, vous avez très bien connu le poète martiniquais. Vous avez écrit Aimé Césaire, frère volcan. Témoignage de vos 40 ans de dialogue avec le poète. Donc vient de paraître, je le disais, chez Caraïbes Éditions, le roman Salve de blues, lundi 9 mars 1942 au Mont Valérien. Nous sommes donc à Paris sous l'occupation allemande. 7 jeunes résistants, pour la plupart qui ne sont pas encore majeurs, sont condamnés à mort, pour l'exemple, par un tribunal militaire le 6 mars 1942. Ces jeunes résistants sont Roger Henlette, Fernand Zalkinoff, Pierre Milan, Achir Semaya, Robert Pelletier, Tony Blancourt et Christian Rizot. Tout le roman se déroule donc le lundi 9 mars 1942 et raconte les actions de 5 protagonistes déterminés à tout faire pour obtenir la grâce ou le sursis pour les 7 condamnés à mort. Ces 5 personnes donc sont passionné de musique de jazz, ça c'est un aspect très important donc du roman. D'un côté, elles veulent tout faire pour sauver les jeunes condamnés à mort. Elles veulent aussi braver l'interdiction nazie du jazz judéo-nègre. Alors en tout cas, c'est ainsi que le régime nazi désignait le jazz. Daniel Maximin, parlez-nous donc de ces 7 jeunes résistants âgés, je le disais, de 17 à 27 ans, condamnés à mort par l'occupant nazi. Comment êtes-vous parvenu à eux ?
Par leur histoire vraie, j'ai eu l'occasion de connaître un peu la famille de l'un d'entre eux, Tony Blancourt, qui est un jeune d'origine guadeloupéenne né à Haïti, où sa famille avait émigré après la Première Guerre, et qui est arrivé à Paris, au lycée, envoyé par sa famille pour qu'il échappe à l'engagement qu'il avait déjà dès 14 ans contre la dictature haïtienne. Il avait été emprisonné et les parents ont dit « on va l'exfiltrer et l'envoyer à Paris ». Et à Paris, il y arrive au moment de tous ces drames, ces engagements. La guerre d'Espagne vient de se terminer par la défaite des républicains. Et donc, il continue son engagement où qu'il soit. Et donc, là, la cible, c'est Hitler maintenant. C'est le nazisme, c'est le péténisme. Il avait même demandé à s'engager, à devancer la date de 21 ans avec une autorisation.
Parce que la majorité était à 21 ans à l'époque, c'est ça?
Oui, hein, c'est ça. Et pour s'engager dans l'armée, c'était ça. Et lui, il avait 17 ans et demi. Les parents, bien sûr, ont refusé. Et donc, il était là au moment de l'occupation. Au lycée Rollin, qui s'appelle actuellement Jacques Decour, du nom du professeur d'allemand d'Ottoni, qui était un grand résistant clandestin, bien sûr, intellectuel, qui faisait la revue Les Lettres françaises, et qui a été arrêté juste au moment où il commençait à publier. Et il est exécuté lui aussi, un mois après, ses élèves résistants. Et cette histoire, je la connaissais, j'ai connu aussi le frère de Tony Blancourt, Gérald Blancourt, mm-hmm. qui était dans la même position. Lui était à Haïti, il est venu après la guerre, il était photographe, poète.
Il est mort il y a quelques années.
Il y a quelques années, il y a peu de temps, donc on a bien eu le temps de se connaître, de se rencontrer. Et disons que l'histoire de Tony, j'avais envie de la raconter, et l'histoire de ses six camarades. Mmh. Parce que je découvre que ce groupe de copains du 11e arrondissement de l'Est parisien, eh bien, c'est comme si on avait fait un casting de diversité, d'immigrés. Mmh. Or, c'est la réalité, parce que tout est vrai dans le roman, à part, comme vous l'avez dit, les cinq personnages
qui sont inventés,
mmh. eux, sont les seuls inventés, et qui vont rencontrer toute la réalité et tous les personnages vrais dans cette journée du lundi 9 mars.
Alors, restons quelques minutes sur ces cinq protagonistes créés par vous, Daniel Maximin. Donc, il y a donc Valérie, le professeur de musique,
oui.
Orphée, sa Aurélia, Michael et Josette. Donc, ce sont ces cinq personnes dont vous relatez leur journée, donc, qui vont tout faire pour obtenir
quelque chose,
tout à fait. Alors, c'est pour ces cinq personnes, en quoi était-il prioritaire alors, de faire gracier ces sept jeunes plutôt que toute autre personne condamnée à ce moment-là? Qu'est-ce que ces sept jeunes représentaient?
Parce que ce n'est pas un livre d'histoire. Oui. C'est un roman, c'est une fiction. Et donc, l'histoire vraie, je l'ai travaillée pendant des années dans les moindres détails sur la vérité historique. Sauf que cette vérité, elle est racontée par cinq personnages inventés. Et c'est le jeu dans lequel je voulais me trouver pour que la fiction vienne au secours de la réalité en lui donnant chair, en lui donnant sens à travers des personnes qui vivent dans leur cœur, dans leur être, et non pas comme un historien qui, de manière objective, raconte une histoire vraie, en essayant d'être le plus vrai possible. Et là, non, les sensations, les sentiments, les hésitations, les espérances de ces jeunes que je prends au réveil, les cinq, Valérie, le prof de jazz, sa sœur Orphée, qui, elle, est poète et écrivain, qui fréquente les écrivains du coloniaux de l'époque et qui travaille au Musée de l'Homme, qui est lui-même un pôle de résistance. On vient d'arrêter un mois avant des responsables du Musée de l'Homme qui ont été fusillés en février, un mois avant ces jeunes. Donc, elle, donc Valérie Orphée, qui s'écrit O-R-F-E-E. Oui. Alors, voilà, c'est Orphée, fille avec, et femme.
C'est ça. Alors,
et puis deux jeunes lycéens, bien sûr, qui sont des copains de ces lycéens, Tony Blancourt et l'autre. Mais eux, ils sont arrêtés, ils sont enfermés. On les a sortis pour le procès. Personne ne les a vus, sauf les trois jours du procès. Mais ils ont des copains. Et donc Aurélia et Joseph, lui jeune d'origine polonaise, qui sont des lycéens à Paris aussi, ils ont des cours en commun, ils ont des fêtes en commun, ils vont danser en commun, et puis voilà, ils apprennent que deux d'entre eux, Christian et Tony, sont engagés comme bébés terroristes, comme on a dit au procès. Et enfin, le cinquième, c'est plus surprenant, ben, c'est un jeune Allemand, soldat, qui est nommé par hasard à Paris et qui est chauffeur des officiers. Ce qui est une place qui lui permet de voir, de connaître, de comprendre des choses. Et puis surtout, il est aussi un grand amateur de jazz. Il joue de l'alto. Il est venu en 1939 écouter le concert que Duke Ellington a donné au Palais de Chaillot. Il a pris le train parce que, évidemment, de la grande tournée triomphale d'Ellington en 1939, il n'y avait pas l'Allemagne, qui était déjà l'Allemagne nazie.
C'est déjà l'Allemagne nazie.
Eh bien, lui, il dit, ben moi, je prends le train, je viens à Paris l'écouter. Et quand il est nommé à Paris ensuite par le hasard, il est tout heureux parce qu'il se dit, je vais pouvoir continuer avec les cours de jazz.
Alors justement, le jazz innerve le texte, Daniel Maximin.
Oui.
Nous allons parler. D'abord, écoutons la musique comme entrée en matière pour évoquer cette question.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Thank you.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans version originale. On écoutait Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, le titre du morceau Nuages. Bien sûr, ce sont des musiciens, des figures qu'on leur retrouve dans le livre de mon invité Daniel Maximin, qui publie chez Caraïbes Éditions Salve de Blues. Daniel Maximin, vous me disiez que le violon à l'époque, c'était plutôt une nouveauté.
Absolument.
Avant de poursuivre pour
les... Et notamment avec les Français, donc Stéphane Grappelli, notamment, qui jouait avec Django Reinhardt, et c'est un peu les vedettes, le hot club de France de l'époque. Et donc mon personnage inventé Valérie, et il est prof de violon jazz. Et il fait du violon jazz avec les quelques jeunes qui sont ses élèves, dont Tony Blancourt, dont Aurélia, dont Joseph et dont le jeune allemand aussi. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ils ont fait venir dans leur engagement cette dimension musicale et artistique.
Oui.
Indépendamment de leur engagement réel
pour libérer les résistants.
Voilà, parce que c'était une musique trop libre pour les nazis. C'était une musique trop nègre. C'est une musique.
Justement, oui. il y a un paradoxe. Le jazz, donc considéré, comme vous le dites, par les nazis comme une musique négro-judéo-anglo-saxonne, c'est comme ça ils le disent.
Oui.
A connu en même temps un grand succès sous l'occupation. Mais comment vous l'expliquez ?
Parce que c'était la grande musique libertaire, libératrice et libérée pour tout le monde, y compris pour des Allemands, y compris pour des nazis qui se trouvaient au premier rang de l'orchestre du spectacle de Django Reinhardt. Il faut se rendre compte que morceaux comme celui-là, des nazis allaient l'écouter dans les boîtes de Pigalle. Parce que la musique, et là en général, elle est plus forte que l'oppression. Elle est la liberté. Et même des gens qui combattent ces musiciens ont besoin de cette musique. C'est tout le paradoxe. Et donc, Django Reinhardt a été protégé par les occupants. On ne l'a pas mis en prison, alors qu'on mettait dans des camps de concentration ou d'extermination des tziganes. Parce que, ah non, ça c'est trop. Autrement dit, cette musique était plus forte que l'oppresseur, plus forte que l'oppression. Et c'est pour ça qu'elle est un outil de résistance, parce qu'elle rentre dans le cœur et la tête de ceux qui résistent aussi, elle leur donne ce qu'Aimé Césaire appelle la force de regarder demain. C'est quelque chose, par exemple, le jeune Allemand, le jour de l'exécution de Alphonse Copin, français, eh bien, il reprend son alto avec qui il jouait en duo, avec Tony Blanco qui, lui, jouait le violon, et Valérie les faisait travailler avec acharnement pour qu'ils arrivent à faire de bons solos. Pourquoi ? Parce que c'est pour se libérer de l'emprise de la règle, de l'emprise de la loi musicale. Ces jeunes gens avaient eu une formation classique. Ils devaient bien répéter la partition de Mozart. Mais Mozart lui-même était libre de même ce que lui écrit, mais il pouvait changer. Et donc, toute l'histoire, c'est comment la musique insulte la puissance de liberté à des gens qui se battent pour la liberté.
Il faut souligner donc que la diffusion du jazz fut interdite dès 1935 en Allemagne, soit donc 2 ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le jazz à Paris, donc, c'est l'occupation. C'est donc beaucoup de musiciens passèrent une partie ou la totalité de cette période dans les camps de prisonniers, bien sûr.
Oui.
Et d'autres se retrouveront donc sans travail qu'à cause du couvre-feu qui est décrété. Des personnes ne veulent vraiment recruter aussi les musiciens noirs. Mais des lieux de musique comme La Cigale ou l'Élysée Montmartre vont permettre justement à ce qu'on appelle le swing franco-antillais.
Oui.
De se révéler, donc avec des musiciens comme Silvio Siobud, Robert Mavunzi, Albert Lirva, Claude Martial.
Mm-hmm.
Et musicalement, qu'est-ce qui caractérise le jazz de cette année-là, Daniel Maximin?
C'est un jazz avec une certaine dimension caribéenne, c'est-à-dire la permanence de la polyrythmie.
Mm.
Et de la danse. On a trop dit que Joséphine Baker, c'était du folklore. Et pas du tout. C'était l'enracinement de la musique et de ce jazz nouveau dans quelque chose qui était le maintien avec le terrien, avec la terre, avec les racines, c'est-à-dire avec les pieds qui dansent. Et c'est pour ça que ce jazz a eu un grand succès parce que c'était aussi une musique qui faisait danser, c'est-à-dire qui libérait le corps. Parce que c'est ça, la danse. Et là aussi, c'est une résistance. Et là aussi, il y a eu des interdictions. Ce que faisaient ce qu'on appelait à l'époque les azous, des jeunes encore, des jeunes mineurs, qui bravaient les interdictions en mettant des par-dessus, en se promenant avec des parapluies, ce qui voulait dire l'Angleterre, vous voyez. Mais on ne pouvait pas arrêter quelqu'un parce qu'il a un parapluie. Et donc, toutes les formes humoristiques de résistance étaient là chez ces jeunes. Mais dans ce jazz, la danse était quelque chose de très, très présent et de très fort.
Et effectivement, c'est cette musique qui relie,
oui,
donc on le disait, ces cinq protagonistes qui, donc en parallèle, donc ont un rôle de résistant, souhaitent,
oui,
font le maximum pour que ces sept résistants ne soient pas exécutés.
Mm-hmm.
Mais ce qui les relie dès le départ, c'est cette musique, et avec un aspect pédagogique aussi. Il y a l'idée de, vous le disiez, Valérie leur enseigne,
c'est oui, oui,
la
oui. Qui leur enseigne la liberté,
oui,
ce qui n'est pas évident. Parce qu'il y a
la
loi de la partition, la partition musicale.
Mmh.
C'est ça qu'on apprend au conservatoire. C'est ça qu'on apprend dans l'école de musique. Respecter la partition et bien la jouer. Et ce que ce jazz est venu amener, c'est non. Il faut, comme on dit aux Antilles, dérespecter la partition pour affirmer une liberté. Parce que toutes ces musiques, toutes, jazz, musique caraïbe, begin, merengue, cuba, afro-cubain, elles sont nées de la résistance à l'oppression. Elles sont nées pendant l'esclavage. Elles sont nées comme une expression libre du corps de l'esclave, enchaîné, et qui se libère par la danse, le chant et la musique. Donc, c'est depuis leur origine que ces musiques sont toujours du côté de la résistance. Et elles savent ce que c'est que l'oppression, elles savent aussi comment résister à l'oppression. Alors arrive Hitler, arrive Pétain, et bien le jazz va dire quelque chose contre cela parce que c'est son origine, c'est sa nature d'être. Et c'est pour ça que des jeunes tombent, si je puis dire, dedans. Ils vont danser le vendredi soir, le samedi soir, au-delà du couvre-feu. Ils restent dans des endroits un peu tranquilles où la police ne peut pas entendre. Et ils expriment non seulement leur soif d'engagement, certains sont engagés et même prennent les armes, comme ces sept. C'est pour ça qu'ils vont être fusillés, parce qu'il suffisait d'avoir une arme pour être désigné et fusillé sans délai. Eh bien, ils vont, encore une fois, utiliser cet outil cet instrument qui est le violon, le piano et tout ça. Et le rôle de Valérie, le prof qui est là, c'est de les inculquer à coups de règle, même à coups d'archer, comme dit Tony, la résistance. Et qu'ils apprennent aussi que ce n'est pas simplement du jeu, que c'est un engagement, qu'on ne joue pas du jazz innocemment. Voilà.
Et aussi le jazz américain notamment, est pour Édouard Glissant un exemple de créolisation. Aussi, dans la pensée d'Édouard Glissant, quand il parle de créolisation, l'un des exemples donc, de ce phénomène qu'il nomme créolisation, c'est également l'avènement du jazz.
Oui, toutes les cultures d'Amérique noire sont des créolisations au départ. Puisque, par exemple, le jazz à la Nouvelle-Orléans, où les Noirs avaient le droit d'aller jouer le soir à Congo Square, à New Orleans, alors que dans certains endroits de religion protestante, on ne pouvait pas danser et on ne pouvait pas jouer seulement, on pouvait chanter dans les chœurs. Et c'est pour ça que toute l'Amérique noire continentale, c'est le gospel, c'est le négro spirituel, c'est les chœurs, et qui ont été aussi des lieux de résistance, parce que ça a aussi des lieux de rassemblement. Par contre, dans la Caraïbe, et à la Nouvelle-Orléans, qui est un peu la Caraïbe de l'Amérique, des États-Unis, là, le droit qu'avaient pris ces esclaves de danser et de chanter et de jouer des instruments, mais quels instruments ? Ben, c'est les instruments du maître. Le violon, le piano, le clavecin, Mozart, les partitions, c'est ça que les maîtres avaient amené, puisqu'ils avaient interdit la présence des traditions africaines. Mais les traditions étaient là, dans la tête, secrètement. Et elles ont investi ces musiques d'Europe, et donc ont créolisé, si on peut dire, Mozart et l'Afrique, pour inventer les Antilles, pour inventer le jazz, pour inventer la musique afro-cubaine. Mais en effet, ces instruments ne sont plus les instruments du maître, parce que le violon est à qui joue du violon, et non pas celui qui l'a acheté ou qui l'a fabriqué. Et c'est en ce sens que c'est aussi un exemple de liberté au-delà des couleurs, des origines, puisque le nazisme voulait séparer les gens avec les êtres supérieurs et les êtres inférieurs, c'est-à-dire tout le reste du monde. Le jazz et ces musiques-là disent le contraire et le prouvent.
Daniel Maximin, vous évoquiez donc Duke Ellington il y a quelques minutes.
Ah oui.
On l'écoute tout de suite.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile. Thank you.
Creole Love Call de Duke Ellington, le morceau préféré d'Orphée, personnage de Salve de Blues, roman de Daniel Maximin, qui est mon invité. Et en effet, donc, vers la fin du livre Daniel Maximin, Orphée a des mots à l'attention de Valérie, son professeur et frère, que vous souhaitez nous lire.
Oui, parce que cette musique qu'on vient d'entendre, elle dit tout. Elle dit ce qui fait qu'ils se battent, parce qu'elle est belle, alors que c'est une musique de résistance. Elle est collective. Il y a les riffs collectifs. Et elle est aussi solo, où chacun prend la responsabilité de ce qu'il fait, comme chacun des protagonistes, tout seul, s'engage, tout en sachant qu'il y a les autres qui pourront le rejoindre. Donc, Creole Love Call, je dois vous un petit secret, c'était le premier titre du roman que j'ai commencé il y a peut-être 4 ans. Parce que justement, ça disait ça. Creole, love et un appel. Donc, sauf que c'est difficile de prendre un titre anglais. ou, voilà. Mais ça explique tout le sens. Et que quand ceux qui ont écouté cette musique, eh bien, il y a toute l'histoire de ces jeunes solitaires et solidaires dedans. Alors quand ils sont exécutés à 4 heures de l'après-midi, parce que personne ne réussira à l'empêcher, c'est un moment de très grande oppression où il fallait faire un exemple en tuant à mort ces 4. Il y a eu des affiches pour la première fois dans les rues de Paris, comme l'affiche rouge 3 ans après, pour pouvoir dire notamment aux jeunes lycéens, ouvriers, tout ça, qui remuaient dans l'engagement, attention, regardez, avec le nom des 7 jeunes et une affiche dans laquelle on met « Ils ont été exécutés aujourd'hui ». Quand elle est rentrée chez elle, Orphée, à la fin, elle est seule, mais elle veut dire encore que même cette exécution a donné à tout le groupe la force, encore une fois, de continuer. Et la résistance ne fera qu'augmenter, notamment dans les milieux lycéens, tout de suite après. Alors, son frère veut faire une musique, mais c'est comme Creole Love Call. Et elle veut faire un poème pour eux, pour dire ça. Et voilà, à minuit, elle écrit ça. Ce soir, la salve des infernaux a pulvérisé 7 sacrifiés en poussière d'étoiles, envolés sans ailes, sans grâce ni sursis, mais comme 7 notes accordées sur la même portée, leur vision préservée sans bandeau contre leur vue crevée. Tony Blancourt, Roger Hanley, Pierre Milan, Robert Pelletier, Christian Rizzo, H.R. Semaya, Fernand Zalkinoff. Ils n'ont pas trouvé de serre d'accueil pour un miracle d'oasis, ni de désert pour un mirage de survie, ni un seul baladin pour improviser l'adieu, balle finie, violon en sac. L'hiver a tout éclairé de soupçons de printemps. Et nous, aimés flétris, nous voici orphelins de leur flamme sans foyer. Mais ce n'est pas un linceul qui recouvre la colline, mais une voile hissée en nous et qui permettra l'échapper de ce mont valérien de souffrance en suivant le violon aérien. C'est à nous de fructifier leur révolte en bourgeons, leur sève clandestine réfugiée dans une flaque de braise. Oui, leur âge a déserté avant le péage des récoltes. Mais aujourd'hui, seul l'oubli pourra les faire vieillir. Et là où leur lumière n'éclaire plus, l'ombre de leurs 7 printemps éclairera peut-être le 19 mars 1942.
Donc c'est vers la fin du livre, voilà. vers la fin du roman, Salve de blues, quand on trouve, c'est ça, exactement. il y a un aspect important aussi, c'est la place que vous rappelez des personnes nées dans d'autres départements de France, les départements d'outre-mer notamment. En page 289, il y a cette visite de la grande serre tropicale du jardin des plantes.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez voulu montrer, qu'est-ce que vous avez voulu incarner en montrant cette visite du jardin des plantes, du jardin tropical des plantes?
Orphée déprime à l'heure de l'exécution, qui sait être à 4 heures. Il se trouve qu'elle a la visite d'Adi Fidelin, une amie guadeloupéenne, qui était la compagne de Man Ray, et dont c'était l'anniversaire. Et ils avaient rendez-vous à midi pour faire un petit repas. Et elle trouve Orphée dans cet état d'apprendre que l'exécution était avancée à aujourd'hui. Et elle se dit, il faut que je l'aide, il faut que je la soutienne. C'est pas avec les musiques, il y a les disques qui sont... Non, ça suffira pas. Il y a quelque chose de plus puissant. Et, eh bien, c'est justement la nature caribéenne, la nature antillaise, qui est le modèle de création des cultures antillaises, à savoir résister au cataclysme cyclone pour l'air, raz-de-marée pour l'eau, éruption volcanique pour le feu et tremblement de terre pour la terre. Les 4 cataclysmes mondiaux, on les a dans les Antilles. Et ils nous ont forgés. C'est-à-dire, ils nous ont appris la résistance aux cataclysmes. Et on les avait tous. Il n'y a pas d'endroit au monde, à part l'océan Indien, la Réunion, par exemple, où il y a les 4 cataclysmes, air, terre, eau, feu. Air, terre, eau, feu. Et quelque part, ça n'est pas quelque chose qui accable. Ça n'est pas quelque chose où on dit, mais on ne peut rien contre ces horreurs. Mais c'est là qu'on dit, il faut lutter et résister. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous donne l'exemple même de la nature qui repousse, qui repeuple, qui revit tout de suite. Nous savons tous ça dans la Caraïbe. Après le cyclone, ça repousse tout de suite. Il n'y a pas le temps d'attendre ou de pleurer. Et quelque part, Adi, elle a envie de transmettre ça à Orphée qui est là dans sa douleur, même si elle travaille au musée de l'homme et qu'elle travaille sur les cultures caribéennes, mais elle n'y est pas à ce moment-là. Et Adi a l'intuition, se dit, je sais où je vais l'amener. Je vais l'amener de la grande serre tropicale du jardin des plantes. Je vais l'emmener aux Antilles. Je vais l'emmener dans la forêt. Je vais l'emmener près du volcan où elle est née, Adi. Et c'est, elle dira, elle va enlever ses chaussures, tremper ses pieds dans la terre de la grande serre, sentir l'humidité et face au mont Valérien où les jeunes vont être fusillés par le feu, elle va lui faire revivre et ressusciter et donc reprendre la résistance et retrouver des forces, toujours la même force de regarder demain, n'est-ce pas ? Et c'est en ce sens-là que cette scène de la serre tropicale devient quelque chose où c'est comme si la Caraïbe venait contrer le mont Valérien, qu'un mont de mort unique, une montagne mortifère, une montagne d'exécution, une montagne de malheur. Voilà.
Daniel Maxime, on écoute encore un dernier titre. Cette fois-ci, c'est « Edissance », pour illustrer donc le livre en entier.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
« Black Gypsy, c'est le titre du morceau d'Eddie Sars sur Aligre FM. Vous êtes dans version originale. Je reçois Daniel Maximin pour son livre Salve de Blues, publié aux éditions Caraïbes Éditions, le 19 mars 1942, au Mont Valérien comme sous-titre. Daniel Maximin, alors, déjà, bon, le temps d'évoquer quand même la figure d'Aimé Césaire que vous avez connue, sauf si vous voulez commenter le morceau.
Oui, un mot. Oui. Eddie Sars, qui est peu connu par rapport à Grappelli, Django et tout ça, c'était un Américain, noir américain, qui était presque un petit génie du violon, des études classiques. Et au moment d'intégrer un grand orchestre classique, il a été interdit parce que noir. Alors il est venu à Paris et il a été reçu. Et il a été reçu par les jazzmen qui appréciaient son travail, et notamment, il faut le dire, Charles Delaunay, et le Hot Club de France.
Que vous évoquez dans le livre.
Hein. Qui sont dans le livre, tout est vrai. Tout et il a même fait un disque avec Django Reinhardt. Et c'est extraordinaire parce que le jazz, c'est comme Nina Simone, qui était très forte en piano et qui, pareil, n'a pas eu le droit aux États-Unis d'entrer dans un orchestre classique. Merci. Parce qu'elle était noire. Et donc, elle est venue. Et elle a fait du jazz. Et ce jazz manifeste une révolte et en même temps l'inscription de leur profond génie dans quelque chose de neuf qui va supplanter l'interdiction qui leur avait été faite de jouer Mozart avec un orchestre aux États-Unis. Et c'est pour ça que je vous sais gré du choix de ces trois morceaux, parce que vraiment, ça dit tout, parce que la musique dit toujours plus, souvent, que les paroles.
Daniel Maximin, une longue amitié, vous alliez au poète martiniquais Aimé Césaire. En avril 2008, donc, des millions de téléspectateurs vous ont vu rendre hommage à Aimé Césaire à l'occasion de sa mort. Cela se passait donc en plein milieu d'un stade de football à Fort-de-France, en Martinique. De la poésie au milieu d'un terrain de foot, c'était quand même exceptionnel, il faut le dire. Daniel Maximin, qu'avez-vous hérité d'Aimé Césaire ?
Oh, rien et tout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un... Vous voyez, comme un enfant qui copie papa, puisque, encore une fois, c'est toujours une histoire de liberté. Il faut faire son solo. Il faut faire sa part. Quand j'étais jeune lycéen, encore que j'allais à présence africaine, Damas, Césaire, Cheikh Anta Diop, tous ceux qui étaient là, ils disaient aux jeunes, faites votre part. C'est la phrase qu'on retient. Faites votre part. Vous n'êtes pas là pour venir copier les grands hommes que nous serions ou les grands poètes. Faites votre part. Et donc, j'ai voulu faire ma part. Et donc, c'est cet héritage-là et cette connivence qui était là et qui était un peu comme, non pas un disciple par rapport à un maître, parce que s'il y a une chose que Césaire n'aimait pas, c'est la maîtrise, le fait de commander, vous voyez, surtout dans la création, qui est le lieu de la libération. Et le lieu de la liberté. C'est pour ça que mon travail, en quelque sorte, dans ces 30 dernières années, a consisté à prendre les poèmes qu'il écrivait et qu'il mettait dans des coins, à les rassembler et à les porter au seuil pour la publication, lui disant « Les jeunes ont besoin de ça ». Lui ne voulait pas publier, il m'avait dit « Tu feras ça quand je serai mort ». Et j'ai répondu « Les Césaire vivent vieux ». Donc, c'était en 78 et il est mort en 2008. Donc, on aurait eu à attendre longtemps. Voilà. Donc, la force de regarder demain, le fait de dire, par exemple, n'y aurait-il dans le désert qu'une seule goutte d'eau qui rêve tout bas ? Dans le désert, n'y aurait-il qu'une graine volante qui rêve tout haut, c'est assez. Désert, désert, j'endure ton défi. Voilà. Nous sommes dans le désert, dans les trois quarts de l'existence. Les humains, on voit les horreurs qui se passent aujourd'hui même partout.
Justement.
Et comment trouver cette force? Comment imaginer l'espérance? Eh bien oui, la poésie, la musique, l'art nous donne cette chose-là.
Mais justement, nous sommes effectivement, le roman a une dimension historique, on l'a dit. Nous sommes des êtres du présent, Daniel Maximin. Dans le moment où nous sommes, donc, puisqu'on parle de résistance justement, aujourd'hui en France, le parti d'extrême droite représente une menace, c'est-à-dire que dans un peu plus d'un an, il est possible que la France soit dirigée par un gouvernement fasciste d'extrême droite. Je veux parler bien sûr du Rassemblement national. Cela vous inquiète-t-il? Comment vous percevez cette réalité?
Chaque génération, ça c'était aussi la leçon de dire, doit faire sa part et ne peut pas simplement compter sur le travail qui a été fait par les aînés ou par l'avant. Depuis Révolution française, les indépendants, toutes sortes de choses dans lesquelles on voit les hommes lutter pour leur libération. Comme ces jeunes de mon roman, 1942, ils ont 19 ans, eh bien ils vivent, ils meurent certains, ils luttent d'autres pour ça. Et c'est l'exemple qui nous est donné. Mmh. Et donc, tout ce qu'on peut dire,
aujourd'hui.
Il faut créer. Moi, je fais salle de blues. Non pas pour parler de 2026, mais pour montrer une continuité de combat et de résistance qui peut donner à un lecteur la force de regarder encore une fois aujourd'hui sans être accablé au point de baisser les bras, mais en disant... C'est quelque chose qui va me pousser à lutter et à résister. Parce que le mal est toujours là. L'oppression est toujours là. Elle attend chaque fois son tour. Et elle est puissante. Parce qu'au fond, c'est la force de la mort. Et la mort, elle est toujours là au bout, y compris pour l'existence de chacun d'entre nous. Mais ce qui la combat, c'est la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est la création. L'invention, l'improvisation, le chant, chanter en prison, danser dans les chaînes. Vous voyez, tout ce qui a été fait par les musiques noires d'Amérique, en pleine oppression, passer de la chaîne à la danse, du cri au chant, et de la chaîne à la danse. Eh bien, c'est ce que nous tous devons avoir en tête, surtout dans les moments où l'oppression gagne et où la mort avance.
Daniel Maximin, vous avez donc, bien sûr vous êtes poète, vous aviez publié il y a quelques années l'invention des Irades et avec d'autres poèmes, c'était donc dans la collection Point Poésie. Et là, donc, il y a une nouvelle édition de ce recueil qui apparaît. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'édition précédente?
C'est une réédition. Il y a une nouvelle couverture où on voit l'île et la nature caribéenne avec son feu, son eau, son air et sa terre. Tout ça sur la couverture nouvelle. L'autre, c'était ma photo. Et donc, ça sort en avril, et c'est une réédition, puisque ça avait été épuisé pendant une année. Et ça me réjouit, parce que la dimension de poésie, comme je viens de le dire, elle est centrale dans la vie, centrale dans mon écriture, que ce soit lorsque j'écris un essai comme Césaire fait un volcan, ou Les fruits du cyclone, ou quand j'écris un roman comme Salve de Blue, vous voyez, la page que j'ai choisie, c'est un poème d'Orphée, ce personnage qui représente quelque part la poésie dans la lutte et dans la résistance. Et Dieu sait si dans la résistance de ces années 39-45, les poètes ont donné, ont payé. Dieu sait si, sous Staline, les poètes ont donné, ont payé. Dieu sait si, au Brésil, dans les résistances, en Argentine, les poètes ont payé, ont donné, mais ils ont écrit. Et quelque part, c'est un peu ce que dit cette réédition qui fait revitaliser cette chose.
Merci Daniel Maximin. Je rappelle donc le titre de votre roman, Salve de blues, lundi 9 mars 1942 au Mont-Valérien, c'est le sous-titre. C'est publié chez Caraïbes Éditions. Les éditions Caraïbes Éditions.
En un seul mot.
Voilà. Merci infiniment.
Et on peut le commander puisqu'il n'est pas toujours dans l'ensemble des librairies puisque c'est un éditeur moyen qui n'a pas les moyens d'être dans...
Diffusé.
Tout, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies.
Et bien sûr, l'invention de la Désirade, donc
oui, là, en format. Un seuil, donc on pourra le trouver.
Merci
beaucoup
de, rien.
De cette invitation.
Merci à Armand Gury qui était à la réalisation technique ce soir. Amis auditeurs et auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés. Dans un instant, vous retrouvez Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, Audiométrique. Je vous retrouve samedi prochain 19h sur Aligre FM 93.1. Bon week-end, bonne semaine, à bientôt.
Version originale, Patrick, Léon Émile. Yeah. Yeah.
Yeah. Cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson's bitch a potato. At the table, cookie shaving and touching.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.